Alors, comme je disais juste il y a un instant, le mot égalité, la France se considère le pays de l'égalité. On est toujours en train de parler de l'égalité, égalité homme-femme. Alors, je vais quand même faire un compliment aux femmes. L'égalité homme-femme, je ne suis pas sûr que les hommes soient égaux des femmes. Je crois qu'elles sont supérieures aux hommes à bien des égards. Mais bien sûr, ce qu'on veut dire, c'est que les femmes devraient gagner la même somme d'argent pour le même travail. Je pense que je suis entièrement d'accord. On est égaux. Et la Bible, si la Bible a un message, c'est que l'homme est l'égal de la femme. Après, on parle de l'égalité des chances. Vous savez qu'il y a un ministère du gouvernement, ministère de l'égalité des chances, pour donner à chacun les mêmes chances d'arriver au succès. Alors, il y a bien des domaines où on n'est pas égaux. Quand on pense à notre santé, on n'a pas le même tous capital de santé. Quand on pense à nos revenus, on n'a pas les mêmes revenus. Quand on pense aux talents, on n'a pas tous les mêmes talents. Il y a des talents différents et variés. On n'a pas le même ADN. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui ont le même ADN. On est donc unique. Les flocons de neige sont tous différents. On est extrêmement variés. Mais nous habitons tous la même planète. Et dans la parole de Dieu, on a beaucoup de domaines dans lesquels Dieu dit que vous êtes tous absolument égaux. C'est le Créateur qui nous parle. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Être uniforme, ça veut dire avoir tous la même tête, avoir tous la même voiture, avoir tous le même logement. L'uniformité, ce n'est pas l'égalité. On est différent, nos épreuves. On n'est pas égaux dans nos épreuves. Il y a des gens qui ont des épreuves du début à la fin de leur vie. Et d'autres qui semblent être relativement épargnés. Donc, on n'est pas uniforme et on est égaux. Dans quel domaine sommes-nous égaux? Et on va regarder, c'est quelque chose de très simple cet après-midi. Parfois, des conférences sont assez complexes, mais là, c'est très, très simple, vous allez voir. Et il y a plusieurs domaines que l'on va considérer. Le premier, Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible dit, parlant de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, au verset 26, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, oui, d'accord, mais il n'y avait que deux. Il n'y avait que deux. Bon. Ils étaient humains, l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu. Seulement, cet homme et cette femme ont procréé, et nous sommes tous les résultats de cette procréation. Adam et Ève étaient égaux dans leur nature humaine. Parce que Dieu a créé l'homme, et puis après il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a pris en os de l'homme, une côte de l'homme, il a fait une femme avec les mêmes cellules qu'avait l'homme, il a fait une femme et puis il a présenté à l'homme et l'homme a dit voici cette fois-ci qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Les animaux, il n'a pas fait ça, il a dit que la terre produise des animaux, que la mer produise des animaux, il les a fait comme ça, mais pour l'homme, il a façonné l'homme et puis il a façonné la femme de ses propres mains. On voit là, rien que là, l'intérêt que Dieu prend à nous les êtres humains. Il prend un intérêt tout à fait qu'il ne n'accorde pas aux animaux. On n'est pas du tout à la même échelle des valeurs. On est des humains. Parfois, il y a des gens qui adorent leurs animaux. Et d'ailleurs, les civilisations en pleine dégénérescence donnent une trop grande place aux animaux. Les animaux, on doit bien les traiter. On doit s'occuper d'eux, ils ne doivent manquer de rien. Si on a un animal domestique, il faut s'en occuper. Mais de là à l'idolâtrer. Souvent, les gens disent, je n'ai plus confiance aux hommes, j'ai confiance dans les animaux. Ce n'est pas le même genre de créature. Un animal, certains animaux domestiques ont le sens de la fidélité, et c'est un instinct, et puis ils n'ont pas toutes les... On ne peut pas avoir une discussion avec eux, ils ne peuvent pas avoir une opinion divergente de la nôtre, on est deux êtres totalement différents. C'est pas, on ne peut pas comparer un homme et un animal. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme viennent de la même matériau vivant. Et comme l'homme et la femme ont procréé tous les autres hommes et toutes les autres femmes, nous sommes tous égaux. Chaque être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son continent, quelle que soit sa culture, est profondément, entièrement, totalement un être humain. Et devant le Dieu créateur, il nous considère tous de manière égaux. C'est très important parce que il y a quelque chose de très, très laid qui s'appelle le racisme. On parle parfois de racisme. Le racisme est basé sur le fait, enfin pas sur le fait, sur l'idée que les races ou les ethnies ne sont pas égales. Et d'où vient l'idée que les ethnies ne seraient pas égales? Ça vient de la théorie de l'évolution. Parce que dans la théorie de l'évolution, pas tous les évolutionnistes, mais dans le temps, quand on en parlait, on pensait que l'homme avait évolué, que l'humanité avait commencé en Afrique et que les premiers hommes avaient la peau noire. Et à mesure que le temps est passé et que les hommes ont évolué pour être des êtres de plus en plus supérieurs, leur peau est devenue de plus en plus claire. Et qu'est-ce que ça donnait à la fin? Des gens qui étaient l'aboutissement de l'évolution humaine, c'était les Aryens. En Deuxième Guerre mondiale, Hitler parlait des Aryens. Les Aryens, c'était le type allemande, allemand, scandinave, grand, les cheveux blonds, les yeux bleus. Il dit c'est l'archétype de la race supérieure. Bon, soi-disant, passons. Oui, mais quel est le résultat? Quelle est l'idée qui leur est venue passer par la tête? C'était l'idée que puisque ces gens-là, c'est la race supérieure, on pourrait accélérer l'évolution de l'homme en supprimant les autres races, en supprimant les juifs, en supprimant les gitans, en supprimant, c'était le plan chez Hitler, en supprimant les noirs, en supprimant par la suite les gens café au lait, comme on dit. Tout ça basé sur une couleur de peau. Alors que nous savons, la Bible l'avait déjà dit, la couleur de peau ne change rien à l'humanité. C'est une question de mélatonine dans les cellules, c'est tout. Notre sang est le même. On a plusieurs types de sang, on le sait, A, B, AB, O point, O plus, voilà. Mais on trouve tous les types de sang chez toutes les ethnies du monde entier. Et au contraire, Dieu n'a pas commencé avec un homme d'une certaine couleur de peau pour évoluer. Il a créé l'homme et l'homme s'est diversifié par la génétique au cours de l'histoire humaine. Et on le trouve dans le principe génétique. Ça, c'était avant de connaître le principe des génétiques. Mais imaginons l'homme qui, à partir de son ignorance et sous la conduite du diable, parce que le diable est l'ennemi des hommes, va inventer une histoire pareille pour faire détruire des hommes par d'autres hommes qui sont parfaitement leurs égaux. Et donc, Dieu, nous sommes des frères et sœurs, génétiquement. Nous sommes tous de la même race humaine. Moi, j'aime même pas le mot « les races ». On a des ethnies, mais on est une seule race humaine. On est un seul genre humain et nous sommes tous aussi humains les uns que les autres. Nous sommes égaux par notre nature d'homme et nous avons tous été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Ça va plus loin que l'image. La ressemblance avec Dieu va très loin. Nous avons par exemple une conscience. Ce qui distingue l'homme, c'est qu'il est conscient qu'il existe. C'est une preuve d'intelligence. L'homme peut faire un acte et il se met à l'extérieur.
Manipuler. nu?
Bonjour, monsieur, dame. Nous sommes juste au début d'une conférence sur le sujet de l'égalité. Et justement, que dit la Bible par rapport à l'égalité? Et nous venons de voir que tous les hommes, tous les êtres humains sont égaux. Il n'y a pas des gens plus humains que d'autres. Parfois, on parle de quelqu'un, oh, il est très humain, il est moins humain. Ça veut dire quoi? Il n'est pas moins être humain. C'est qu'il fait preuve d'un peu plus de gentillesse, ou il fait preuve d'un peu plus de compréhension. On dit qu'il use beaucoup d'humanité. C'est une manière de parler, mais on est tous totalement, profondément des êtres humains. Et allons plus loin. Nous sommes des êtres humains à tous les stades de notre développement. Un enfant de 3 ans est aussi humain qu'une personne de 90 ans. Et le bébé qui n'est pas encore né est humain au même titre que l'enfant qui a 10 ans. Depuis la conception, dans le sein de notre mère, on est humain. On est un être humain créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord avec le principe de l'avortement. On ne peut pas dire à quelqu'un, ce qui est dans ton sein, à une dame, ce qui est dans ton sein, qui va naître dans quelques mois, n'est pas un être humain. Si on le laisse tranquille, dans 9 mois, on aura un bébé qui sera un être humain. Et tout le monde va le reconnaître pour un être humain. Et dès qu'il naît, il a des droits. Hein? Celui qui tue son bébé à 3 mois, il va en prison à vie. Mais celui qui tue son bébé à 3 mois de gestation, pas de problème. La sécurité sociale rembourse. Et là, nous ne parlons pas du tout de politique. Là, on parle de morale. De moralité. À quel moment est-ce qu'on devient un être humain? On devient un être humain à la conception. Créé à l'image de Dieu. C'est ainsi que Dieu a voulu. Et donc, nous sommes égaux par notre nature d'homme. Mais il y a aussi, si ça c'est réconfortant de savoir qu'on est tous des êtres humains et nous sommes absolument égaux devant Dieu, en Romains chapitre 5, on a une vérité plus triste, mais qui est réelle aussi, qu'il faut comprendre. Romains chapitre 5, verset 12, on a un passage qui englobe tous les êtres humains dans la terre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes égaux aussi par notre nature pécheresse. Aussi vrai qu'on est des êtres humains, nous avons chacun d'entre nous une nature pécheresse. Cette nature pécheresse ne nous oblige pas à pécher. On ne peut pas dire, je n'ai pas pu me retenir de pécher, j'étais obligé de pécher, non. Mais on a en nous un fort désir de pécher, on a ce qu'on pourrait appeler une faiblesse morale. Devant certaines tentations, il y a quelque chose en nous qui dit « Ah, j'en ai envie. Je sais pas bien, je sais que c'est pas bien, mais j'en ai envie quand même. » On n'est pas comme ça avec tous les péchés. Il y a des péchés qui nous dégoûtent. Il y a des péchés que commettent d'autres gens. On dit « Ah, jamais je ne pourrais faire ça. » Mais si on était laissé suffisamment longtemps dans des situations où l'on était constamment confronté à ce péché, même ce péché nous paraîtrait moins laid et on pourrait même être tenté de le commettre. La plupart des meurtriers n'ont jamais pensé qu'ils deviendraient meurtriers. Mais ils ont pu cultiver une certaine haine ou bien ils ont pu laisser éclater leur colère et puis à un moment donné, ils étaient suffisamment en colère et qu'ils avaient les moyens et puis ils avaient de la haine et puis la violence et puis ils ont commis l'irréparable. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout ce travail, tout ce jeu, tout cet orage dans leur âme, dans leur cœur, qui vient de la nature pécheresse. Quelqu'un nous insulte, on se met sur nos grands chevaux, on crie, on vocifère, on dit c'est pas juste, c'est pas normal, je vous hais, le ton monte, on en vient aux mains. La nature pécheresse, on a ça en nous. Et tous les êtres humains ont cette même nature. Alors d'où vient-elle? Nous ne l'avons pas développée, elle est en nous, à notre conception. Et comment ça se fait? C'est parce que Adam, le premier homme, n'avait pas cette nature pécheresse. Il a été créé innocent. Il n'était pas spécialement saint et consacré à Dieu. Il n'était pas non plus consacré au mal. Il était au milieu. Il était au milieu, innocent. Il n'avait fait ni le bien ni le mal. Il vivait dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Dieu. Tout se passait bien. Et un jour, Satan est venu et lui a proposé de désobéir au seul ordre que Dieu lui avait donné, de ne pas manger d'un certain arbre. Et Satan a dit spécifiquement à Ève, tu pourras manger de cet arbre. Vas-y, mange de cet arbre. Mange le fruit de cet arbre. Tu sais que si tu manges de cet arbre, Dieu ne l'a pas dit, mais si tu manges de cet arbre, tu seras comme des dieux. Tu connaîtras la différence entre le bien et le mal. Tu seras comme Dieu, tu vois. Tu vois, c'est un truc bien. Tu pourrais le faire. Et elle regarde le fruit, il était beau, le fruit était beau. Le fruit avait l'air appétissant. Et pourquoi Dieu m'interdirait-il de manger de cet arbre? Ben, je vais en manger. Elle a pris une décision. Elle a pris une décision de désobéir à Dieu. Elle a été, elle, séduite. Elle a été, on pourrait dire, trompée. Mais Adam est arrivé. Et lui, il a vu l'enjeu, il a compris de quoi il s'agissait. Il savait que c'était pas la chose à faire, il savait pertinemment que c'était de la désobéissance. Et volontairement, il a pris le fruit que sa femme lui tendait, il a mangé ce fruit aussi, et les deux ont décidé de désobéir à Dieu. Quand ils ont pris cette décision-là, on pourrait dire un changement est arrivé dans leur nature. C'est comme si leur ADN, ce qui les constituait avait changé et dans leur âme est entré le désir de pécher. Parce qu'ils avaient pris cette décision. Et ce désir de pécher, cette attirance vers le péché, a marqué tous leurs descendants. Ce qui fait que toute personne qui naît avec une nature pécheresse. Parfois, quand on va dans un cimetière et puis on voit là où il y a un enfant, on regarde, vous savez, je regarde toujours les dates des deux côtés du tiret. Hein. Parfois, on peut trouver 1912 à 1912. L'enfant est mort avant l'âge d'un an. Et invariablement, quelqu'un a mis une gravure, notre ange nous a quittés. Hein. Parce qu'on appelle les enfants qui sont nés, morts très jeunes, des anges. Ils nous ont rendu visite, ils sont partis, c'était comme des anges. Et on le comprend. Mais ce n'était pas un ange, c'était un être humain avec une nature pécheresse. Et s'il n'a pas fait beaucoup de mal pendant cette première année, s'il avait vécu comme vous et moi, ben il en aurait fait quand même. Il a une nature pécheresse. Dès le départ, c'est en nous et à notre conception, on est né avec cette nature pécheresse. Mais regardez Romains 3, verset 23. Alors, on a cette nature pécheresse, tous. Nous sommes égaux, donc. Hein? C'est pas joyeux, mais on est au moins égaux. Mais regardez, ça va plus loin, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, c'est encore plus triste, le fait qu'on ait une nature qui est tenté par le péché, c'est déjà assez triste, mais nous sommes aussi égaux dans le fait que nous avons tous commis des actes de péché. On a tous fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Avant de les faire, on savait qu'il ne fallait pas les faire. Pendant qu'on les faisait, on savait qu'il ne fallait pas le faire. Et après les avoir faits, on savait qu'il n'aurait pas fallu les faire. À chaque étape de ce péché, on était conscient qu'on commettait un péché. On pourrait penser, mais si on avait un brin de sagesse, on pécherait une fois, et on dirait, oula, je me sens coupable, je ne vais plus jamais recommencer à pécher. Eh bien non. On a recommencé, et recommencé, et recommencé, et recommencé encore. Et souvent les mêmes péchés. On parle souvent d'un péché qui, on va dire, le péché mignon, on dit parfois, parce qu'on veut le justifier. Mais il y a des péchés qui reviennent régulièrement. Il y a des tentations auxquelles nous sommes très sensibles. Il y a certains péchés que nous ne commettrons jamais. Mais il y a certains autres que l'on commet presque tout le temps. Chaque fois qu'on a un moment de faiblesse, bam, on tombe dans le même péché. Parfois, c'est des péchés de pensée. Ça peut être la jalousie. Ça peut être la colère. Ça peut être le matérialisme. Ça peut être plein de choses, des attitudes, la médisance, le mépris, toutes ces choses-là. On a commis des actes, des pensées, des attitudes de péché. On a tous fait. Et en Romains 5, verset 18, nous lisons. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est de mal en pis. On a tous une nature pécheresse, on est égaux là-dedans. On a tous commis des actes de péché, volontairement. On aurait pu ne pas le faire, on l'a fait quand même. On est égaux, et là, on est tous condamnés. Si vous mettez 1000 criminels devant un juge, combien de personnes il doit condamner? Les 1000. Il ne peut pas dire, écoutez, 500 ça suffit, je vais prendre les pires, je vais prendre les 500 et les petits criminels, je ne vous juge pas. Il ne serait pas juste. S'il y a des criminels, il faut qu'il les juge tous, sinon il n'est pas juste. Et Dieu, devant des milliards de pécheurs, il peut regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas péché? Quelqu'un lève la main, vous n'avez pas péché. Vous êtes ici parmi les pécheurs, mais vous n'avez jamais péché. Aucune personne ne peut lever la main. On est tous coupables. Il n'y en a pas un d'innocent, non? Mais vous êtes tous condamnés alors. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on est condamnés, c'est parce qu'on est tous des pécheurs qu'on est condamnés. Dieu ne peut pas dire... Si vous avez fait 30 kilos de péché, c'est pas trop grave, mais si vous avez fait plus de 100 kilos de péché, là, non. Si vous avez fait un péché, vous êtes un pécheur. Si vous êtes un pécheur, je dois vous condamner. Condamner par rapport à ma justice. Et donc, la condamnation de Dieu nous a tous atteints. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que si rien n'intervient dans notre vie d'ici notre mort, si nous ne faisons aucune démarche vis-à-vis de Dieu avant de mourir, nous sommes déjà sous la condamnation de Dieu aujourd'hui, demain, ça ne changera pas, on sera sous sa condamnation, dans un an, on sera toujours sous sa condamnation, et le dernier jour de notre vie, on sera sous sa condamnation, et quand on meurt, on est sous sa condamnation pour l'éternité. Si rien ne vient changer la donne, la situation, on est déjà sous la condamnation de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui ne croit pas dans le Fils, il est déjà condamné. Il y a des gens qui disent, oh, vous savez, mais Dieu, moi je ne sais pas s'il en existe un, mais s'il y en existe un, quand je serai mort, que je le verrai, on va discuter ensemble. Je vais dire, bon, tu me juges, mais moi aussi je te juge. Moi j'ai trouvé que tu n'as pas très bien assuré, tu as laissé les gens mauvais sur la terre, tu n'as rien fait, alors tu me reproches des choses, je te reproche des choses, voilà, on est quitte. Toi, tu n'es pas tout blanc, moi non plus, ok, on se pardonne réciproquement, et ça va très bien comme ça. Mais il parle de qui, là? On ne va pas parler à Dieu comme ça. Si Dieu existe, il est tout-puissant, il n'est coupable de rien. C'est lui qui semble le pécheur. C'est trop tard, après la mort. Nous sommes déjà condamnés. Dès la première fois que nous avons péché, la colère de Dieu nous condamne. Alors, Dieu n'exécute pas la condamnation, ne nous envoie pas en enfer, il nous laisse le temps sur la terre pour vivre. Mais si d'ici notre mort, les choses ne sont pas réglées, on va en enfer. Dieu ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas nous accepter dans son paradis avec nos péchés. Il n'y a qu'un seul autre endroit où l'on peut aller. C'est loin de lui, loin de sa présence, dans un Dieu de punition et de souffrance. Alors, heureusement, il y a une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'est pas bonne si on ne comprend pas la mauvaise nouvelle. Si, par exemple, on venait vous dire, vous savez, j'ai payé votre découvert bancaire. Et vous dites, mais je n'ai pas de découvert bancaire. Moi, ça va bien à ma banque. Qu'est-ce que c'est de payer ma découvert bancaire? Tu prends pour qui? Et la personne dit, venez avec moi, on va voir le banquier. Vous allez voir le banquier, et le banquier vous montre, vous n'avez pas regardé vos relevés depuis longtemps, monsieur, madame, vous avez 30 000 euros de découvert bancaire. Vous avez pris votre carte, vous avez dépensé, et voilà, vous avez ce découvert bancaire. 30 000 euros. Là, la personne qui dit « Je viens de payer votre découvert bancaire », c'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a appris qu'il y avait un problème. Et donc, l'idée que Jésus est venu pour sauver, oui, bon, pourquoi pas? C'est pas une bonne nouvelle à moi de savoir qu'on est condamné. C'est pour ça qu'il faut savoir d'abord qu'on est condamné, on est tous condamnés. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et en Jean 3,16, le verset le plus célèbre de la Bible, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, les gens, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, nous découvrons, attends, je suis sous la condamnation de Dieu. Si rien ne vient changer ma situation, quand je mourrai, je passe en enfer directement. Je suis condamné. Et là, nous apprenons, le Fils de Dieu a été donné pour que quiconque, ça veut dire moi, je peux, quiconque croit, il ne me demande de rien faire. Il me demande de croire que je n'irai donc pas en enfer, que j'aurai la vie éternelle. Nous sommes donc tous égaux devant l'amour de Dieu. Dieu nous aime tous. Il y a des gens qui pensent que Dieu aime les uns plus que les autres. Que Dieu a choisi à l'avance, tiens, celui-là, je vais le sauver, les autres, je vais les envoyer en enfer. Et si quelqu'un trouve que c'est pas bien, je vais dire, j'aurais pu envoyer tout le monde en enfer, j'en ai pris toi, c'est déjà pas mal. Mais quand nous lisons ce verset, on comprend que Dieu aime tous les hommes. Il nous a tous créés, il nous aime tous. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est tous les gens qui vivent dans le monde, tous les êtres humains. Dieu aime toute l'humanité. Le Fils unique, Jésus, a été donné pour tous les hommes. Le quiconque croit s'applique à tous. Et la vie éternelle est offerte à tous. On est dans l'égalité absolue. On est tous condamnés, mais on est tous aimés. Christ a payé pour tous et le salut est offert à tous. On ne peut pas être plus clair que ça. Nous sommes tous égaux devant l'amour de Dieu. Et nous sommes tous capables d'être sauvés. Alors, dans cette égalité, il y a des différences. Par exemple, il y avait le père, la Bible parle du fils prodigue. Vous connaissez la parabole du fils prodigue? Vous avez le père qui était un très bon père. Il avait un fils aîné et un fils jeune. Et le jeune, ben, il a voulu aller faire un peu fêter avec les gens du monde. Il avait des mauvais camarades. Il dit à son père, donne-moi la part qui me revient, donne-moi mon héritage. Le père divise son héritage en deux, donne une part au fils cadet qui s'en va, qui dépense son argent avec ses copains. Et après, quand il n'a plus d'argent, bien sûr, il n'a plus de copains. Et puis là, il est embauché chez un fermier à nourrir les cochons. Mais le fermier ne lui donne pas de quoi manger lui-même. Il a tellement faim qu'il aimerait manger ce qui est donné aux cochons. Et là, dans ce champ, dans cette boue, il regarde sa situation. Il dit... Je suis le fils de mon père. Chez lui, on a des domestiques. Ils mangent à leur faim. Moi, je suis le fils de mon père. Et ici, je meurs de faim. Chez ce fermier, qu'est-ce que je fais là? J'ai tout perdu. Mais voilà ce que je vais faire. Je vais me lever et je vais aller voir mon père. Et je vais demander à mon père de me pardonner ma bêtise et mes péchés. Et je vais demander à mon père, je vais dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai tout gâché. Mais est-ce que tu veux bien m'embaucher comme un de tes domestiques? Comme ça, je peux travailler comme un serviteur pour toi et je peux au moins manger, mais je ne peux pas être... Bien sûr, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Et l'autre fils, le fils aîné, lui n'a jamais fugué. Il est resté à travailler avec son père, fidèlement, à travailler dans les champs, à travailler très loyalement. Mais quand le fils prodigue est revenu, qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a ouvert ses bras, il a couru vers lui, et il a pris à bras ouverts. Ça a provoqué la jalousie du fils aîné. Le fils aîné a dit, mais moi, je n'ai pas fait ce qu'a fait mon frère. Regarde, il a dépensé tout son argent et tu le prends dans tes bras. Mais c'est quoi? Mais c'est pas normal, il ne mérite pas ça. Le père dit, c'est mon fils. Il était perdu, il était mort, il est revenu à la vie, il est revenu dans ma famille. Tu veux faire la fête, mon fils? Mais fais la fête. Je t'ai jamais empêché de faire la fête. Tout t'appartient. Mais mon fils est revenu. Et ce père est une image de Dieu. Celui qui est resté à côté de lui fidèle, il l'aime. Et celui qui est parti faire le criminel, il l'aime aussi. Et les deux, il peut leur pardonner. Parce que le fils aîné, malgré qu'il était fidèle, il était rempli d'orgueil, rempli d'amertume et de jalousie. Ce n'était pas tout à fait net dans son cœur. Mais le père était prêt à lui pardonner aussi ses attitudes, comme il a pardonné à l'autre fils tous ses actes de péché. Dieu est le même. Nous, on ne fait pas les mêmes parcours, mais on est tous des pécheurs, et ce père nous aime tous. Pensons à Nicodème. Nicodème, c'était un homme qui connaissait la loi de Dieu, qui pratiquait la Bible, qui n'a jamais fait un gros péché. Il a vécu sa vie d'une manière vraiment modèle. Quelqu'un de tout à fait honorable. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est à lui qu'il a dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et le brigand sur la croix, lui avait passé sa vie à faire des crimes. Il avait tué des gens, il voulait renverser le gouvernement. Et quand il est sur la croix, cloué à côté de Jésus, qu'est-ce qu'il dit à son copain? Il dit, mais nous, on mérite d'être crucifiés. Nous avons été des criminels. Il est normal qu'on nous crucifie. On mérite d'être cloué sur une croix. Mais celui-ci, parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne, il dit à Jésus. Et Jésus lui répond, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Le bon Nicodème, il fallait quand même qu'il naisse de nouveau. Et le mauvais brigand, le Seigneur l'a reçu dans le paradis le jour même. Parce qu'il a cru en Dieu. Voyez, nos parcours ne sont pas les mêmes. Mais on est tous des pécheurs. On a tous besoin de Jésus pour être sauvés. On est égaux devant l'amour de Dieu. Alors, une fois qu'on reçoit Jésus-Christ dans son cœur et qu'on place sa confiance en lui, est-ce qu'on est quand même égaux encore? Oui, plus que jamais. On est égaux dans nos privilèges spirituels. C'est-à-dire que celui qui reçoit Christ dans son cœur comme son sauveur, il a la possibilité de vivre aussi près de Dieu qu'il veut. Parce que Dieu lui donne tous les privilèges qu'il donne à tous les autres. Dieu n'a pas de chouchou, comme on dit. Il aime tout le monde. En Éphésiens chapitre 3, il y a un passage qui le montre. Éphésiens 3. Et alors, il y a des gens qui, quand l'apôtre Paul a écrit ce verset, il y avait... Dans le monde, il y a 2000 ans, il y avait un énorme racisme. Mais quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'était entre les juifs et les non-juifs. Bon, les juifs, c'est pas nombreux par rapport à tous ceux qui ne sont pas juifs. Mais les juifs avaient reçu la parole de Dieu. Dieu avait choisi Abraham et son peuple pour témoigner de lui à tous les peuples de la terre. Et ils auraient dû le faire, mais au lieu de témoigner de leur Dieu aux autres peuples de la terre, ils ont bien gardé leur Dieu pour eux. en disant, on ne va pas parler de notre Dieu aux autres gens de la terre, parce que s'il nous a choisis, c'est qu'on est meilleur que les autres. Et les autres ne méritent pas de connaître notre Dieu. Notre Dieu, c'est pour nous, parce que nous sommes meilleurs que les autres. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui vous montrent constamment qu'ils sont mieux que vous, qu'est-ce que ça éveille en nous? Ben, de la haine, du mépris. Ces gens, ils se croient à tout, ils se croient mieux que moi, mais moi, je vais leur montrer. Puis ça engendre la haine. Il y avait donc de la haine et l'orgueil et mépris entre les juifs et les non-juifs. Et ça avait duré depuis des siècles. Pour nous aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais c'était quelque chose de terrible. Vous savez ce qu'il a fait Dieu? Il a décidé de prendre des juifs et des non-juifs et de les sauver et les mettre ensemble dans la même église. Et pour les juifs, c'était une surprise. Même pour les apôtres, ils étaient choqués. Ils étaient carrément choqués que Dieu veuille sauver les non-juifs. C'était au point quand Dieu a dit à Pierre, « Tu vas aller voir un homme de l'armée romaine, un officier de l'armée romaine. » Pierre dit, « Je ne peux pas. » Et comment tu ne peux pas? Mais je n'ai jamais été avec quelqu'un qui n'était pas un juif. Je ne pourrais pas manger la nourriture dans une assiette qui n'appartient pas à un païen. Je ne pourrais pas entrer sous le toit d'un païen. Je ne pourrais pas aller parler avec un païen, mais je serais tout souillé. C'est comme s'ils étaient pleins de microbes, ça serait horrible. Je ne peux pas fréquenter ces gens-là. Et le Seigneur a dit, tu vas les fréquenter, tu vas y aller. Alors j'amène des témoins, hein, parce que je veux qu'il y ait des témoins avec moi. Il a amené trois autres juifs avec lui. Et ils sont allés chez ce monsieur, Corneille. Corneille est tellement content qu'il arrive. Il arrive devant lui et tombe à ses pieds. Il se prosterne devant Pierre. Alors Pierre, quand même, il savait que ce n'était pas la chose à faire. Il dit à ce monsieur, mais levez-vous, je suis un homme comme vous. Mais ça a quand même dû le toucher. Et M. Corneille dit, hey, vous êtes venu, c'est bien que vous soyez venu, je priais Dieu que vous veniez, vous êtes venu. Ça devait quand même surprendre Pierre. Venez, venez, tout le monde est réuni, on attend que vous venez pour nous parler de Dieu. Même chez les Juifs, on n'avait jamais une telle invitation. Il entre là, et toute la famille de Corneille, tous ses domestiques, tous ses amis étaient là. Il devait y avoir des dizaines de personnes dans cette grande salle. Tout le monde est assis pour écouter ce que Pierre va leur dire. Il commence à leur parler. Il commence en disant, vous savez, dans ma culture, on ne va jamais chez les non-juifs. Jamais. C'est la première fois que ça m'arrive. Je reconnais, obligé de reconnaître, que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Et que partout où les gens l'honorent, il se révèle à eux. Et savez-vous quoi? Il a envoyé son fils, le Messie, Jésus, pour les Juifs, mais aussi pour le monde. Et quiconque croit en Jésus-Christ est pardonné de ses péchés. Il n'a pas pu aller plus loin, parce que tout le monde était là, écoutez, quiconque croit en lui est pardonné de ses péchés. Ils ont tous cru en Jésus ensemble. En une seconde, et en une seconde, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils ont tous parlé avec d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas, comme avaient fait les apôtres dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Pierre et ses amis, ils voient ça, mais ils sont choqués, ils sont abasourdis. Et Pierre dit, mais... On va les baptiser. On ne peut pas refuser le baptême à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Alors il les a baptisés, tous, dans la journée. Il rentre à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il n'entend pas? Les apôtres le convoquent. Alors, où c'est que tu as été? Tu as été chez Les non-juifs, t'as mangé avec eux à leur table, t'as mangé leur nourriture, t'as été sous leur toit, t'as parlé avec eux, c'est quoi ça? Puis on dit, attends. D'abord, je ne voulais pas y aller. Le Saint-Esprit m'a donné 3 visions, et puis des gens sont venus, et le Saint-Esprit a dit, tu vas avec eux. Je ne pouvais pas opposer au Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Bon, je suis allé, ils étaient prêts, et à peine, je leur ai dit comment se convertir, et le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, et ils ont parlé en langue comme nous, le premier jour de la Pentecôte. Je ne pouvais pas m'opposer à Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a voulu. La Bible dit, les apôtres se sont calmés. C'est qu'ils étaient en rogne. Et ils ont dit, Dieu a donc accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie éternelle. Ils étaient choqués. Parce qu'ils étaient tellement dans leur culture de racisme, les pauvres. Ils étaient nés là-dedans. Toute leur vie, ils pensaient comme ça. Et Dieu devait vraiment faire un travail dans leur cœur. Alors tout ça pour dire, Éphésiens chapitre 3, verset 6, Paul dit, ce mystère, parce que c'était quelque chose que Dieu n'avait pas montré au début, qu'il montre maintenant. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Paul dit, vous savez, Dieu ne l'a pas dit au début. Il a gardé pour lui ce petit secret. Mais maintenant, il vous le dit, et maintenant vous le savez, les juifs et les non-juifs, ils héritent les mêmes promesses. Ils ont le même accès auprès de Dieu. Il y a un autre passage qui dit un peu la même chose, mais différemment. Galates 3, 28. Galates 3, 28. C'est encore plus grand. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si on se rencontre pour la première fois, je vous vois, vous me voyez, vous me dites, vous êtes un homme. Oui, je suis, je suis un homme, et vous êtes une femme, oui. Et vous allez me dire, votre accent n'est pas d'ici, vous êtes d'où? Ah, je suis américain. Ah, mais moi, je suis français. OK? Vous avez telle culture, moi, j'ai telle autre culture. On peut parler des heures de nos différences. Mais quand on est devant Dieu, il ne demande pas, vous êtes homme, vous êtes femme, vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes zoulou, vous êtes quoi que ce soit, peu importe. Il dit, est-ce que vous êtes en Christ? Oui ou non? Si on est en Christ, on est en Christ. Et rien d'autre ne compte. C'est égal à Dieu si on est homme, femme, quelle nationalité. Vous êtes employé, vous êtes salarié, vous êtes chômeur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ministre, vous êtes médecin, vous êtes cantonnier. Ça n'a aucune importance. Esclave, libre, peu importe. Vous êtes en Christ. Vous êtes un en Christ. Vous êtes unis. Là, on ne peut pas le dire mieux que ça. On est égaux en Christ. Il y a ceux qui sont en Christ, qui sont sauvés, qui sont pardonnés, qui sont en chemin pour le ciel. Il y a d'autres qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas sauvés et qui sont en chemin pour l'enfer. La seule chose qui compte dans le ciel, c'est est-ce qu'on est en Christ. Pensez bien, il n'y aura pas une place pour les catholiques, pour les protestants, pour les mormons, pour les témoins de Jéhovah, pour les bouddhistes et ces gens-là. Il y a un seul groupe de personnes qui sera dans le ciel. Un seul groupe. Les gens qui sont en Christ. C'est quoi être en Christ? C'est dire, je suis un pécheur. Je suis condamné par la sainteté de Dieu. Mais j'ai appris que Christ est mort pour mon péché. Il a payé tous mes péchés, lui-même, sur la croix. Eh bien, je place toute ma confiance dans son sacrifice. Je ne compte que sur lui pour aller au ciel. Et c'est grâce à lui que Dieu me pardonne et que Dieu m'adopte dans sa famille. Je n'ai pas confiance dans une église. Je n'ai pas confiance dans une religion. Je n'ai pas confiance dans mon baptême, ni dans ma confirmation, ni dans mes parents, ni dans ma connaissance, ni dans mes bonnes œuvres. Tout ça, je n'ai confiance en rien de ça. Je place toute ma confiance dans le fait que Christ a payé pour mes péchés. Et quand on fait ça, on est en Christ. Une fois qu'on est en Christ, on est en Christ pour l'éternité. Et en Christ, on est égaux avec tous les autres. Et on va tous se réjouir en Christ dans le ciel. Vous êtes en Christ. Nous sommes égaux dans nos privilèges spirituels. En 2 Corinthiens chapitre 5, un autre domaine où nous sommes tous égaux. Et c'est un domaine d'égalité qui nous fait réfléchir quand même. Dans le verset 10, il dit « Car ils nous vont tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ce mot « tous », ça veut dire que ça s'applique à tous les chrétiens. Tous ceux qui sont en Christ vont être évalués par Jésus-Christ. On est sauvé, on est pardonné, on va au ciel, ça ne change rien. Mais, et c'est normal, le Seigneur Jésus, qui nous a payé le salut par son sang, il veut nous évaluer devant son tribunal. Alors, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est quand même solennel. De quoi s'agit-il? Nous allons comparaître devant notre Sauveur. Et le Seigneur va nous montrer ce qu'a été notre vie chrétienne. Il va passer en revue les choses que nous avons faites qui étaient à sa gloire et les choses qui n'étaient pas à sa gloire. Il va nous montrer sans doute des attitudes, des motivations qu'on a pu avoir qui étaient pures et bonnes ou qui ne l'étaient pas. Il va nous montrer peut-être des occasions qu'on a utilisé, des occasions qu'on a ratées. En tous les cas, il va évaluer la manière dont nous avons vécu pour lui, avec lui et par lui. La Bible dit qu'il va même révéler des choses qui sont dans les ténèbres, des choses que nous n'avons pas vues. Il se peut que quand on sera devant lui, il va nous montrer que même le diable a lutté contre nous. Quelquefois on dit, mais j'ai témoigné, et les gens ne sont pas venus au Seigneur. Mais alors j'ai raté, je ne suis pas un bon chrétien. Et peut-être Dieu va nous montrer des choses dans les ténèbres, comment Satan nous a attaqués, comment Satan a été contre nous, et que on aurait peut-être eu plus de fruits, mais on a lutté contre Satan même sans le savoir. Il va, la Bible dit, montrer les desseins des cœurs. Il va non seulement nous montrer ce qu'on a fait, mais les motivations et les attitudes avec lesquelles on les a faites. Alors avec tout cet ensemble de choses que Dieu va nous montrer, il va nous donner des récompenses pour tout ce qui a été bon devant lui. Et tout ce qui n'a pas été bon, vous savez ce qu'il va en faire? Il va les brûler. On pourrait dire, ah oh non, quelle perte! J'ai fait des choses qui vont brûler. C'est mieux comme ça. On ne voudrait pas les traîner derrière nous pour toute l'éternité. Dieu va les brûler, Dieu va les oublier. Nous allons les oublier et nous entrons dans la gloire céleste. Et en fonction de ce tribunal du Christ, la Bible dit que pour l'éternité, on va tous briller dans certains éclats, un peu comme les étoiles qui sont plus brillantes que d'autres. Et cet éclat va dépendre de cette évaluation. Alors, tous les enfants de Dieu brilleront, mais les uns brilleront plus fort que les autres. Alors, il ne s'agit pas pour les pasteurs, il a prêché 10 000 messages, il va briller comme ça, et un autre, il ne savait pas prêcher, il va briller. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Ça dépend surtout de l'attitude avec laquelle on l'a fait. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais on ne voit pas ce qu'ils font. D'autres, ils servent et on voit tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que les uns seront mieux récompensés que les autres. Dieu, Christ, va être parfaitement juste. Et je suis persuadé que certains chrétiens, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, vont briller parmi les plus brillants pour l'éternité. Et d'autres qui étaient dans l'œil public, peut-être, ne brilleront pas tant que ça. Parce que le Seigneur tient les comptes. Il est parfaitement juste. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce moment, mais on doit vivre notre vie avec la pensée, un jour, Dieu, Christ, va m'évaluer pour brûler tout ce qui n'était pas bien et pour me récompenser pour tout ce qui a été bon avant l'éternité. Et là, on y passe tous. Tous les enfants de Dieu iront et Jésus va nous évaluer. Et je termine avec ce passage terrible en Apocalypse chapitre 20, avec l'espoir et la prière que personne ne sera dans ce groupe. J'espère que personne ici ne sera concerné par ce que nous allons lire maintenant, mais il y a une évaluation pour ceux qui sont en Christ, on vient de le voir, mais il y a aussi un jugement pour tous ceux qui ne sont pas en Christ. En Apocalypse chapitre 20, verset 11, Jean donne cette vision que Dieu lui accorde. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » De quoi s'agit-il? On l'appelle le jugement du grand trône blanc. Qui va être assis sur ce trône? Mais le même qui a été ici sur le trône du tribunal du Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui sera sur le grand trône blanc. Et pourquoi Jésus va-t-il être assis sur ce grand trône blanc? Il est le seul qui peut juger les pécheurs. Et pourquoi il est le seul qui peut juger les pécheurs? Parce que c'est lui qui a payé pour leurs péchés. C'est lui qui a payé pour leurs crimes, pour leurs rébellions. C'est lui qui leur a offert la réconciliation. C'est lui qui leur a dit, venez, je vous accueille, je veux vous sauver, je veux vous pardonner, je vais vous réconcilier avec moi. Il est le seul à l'avoir fait. C'est le sauveur. Et les gens qui seront devant lui sont des gens qui ont refusé cette offre. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas du Christ, je ne veux pas de son pardon, je ne veux pas m'humilier, je veux vivre comme je veux, je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Alors c'est celui qui a payé pour leur salut. Il est le seul qui a le droit de les juger. Ce n'est pas vous ou moi qui peuvent les juger, c'est lui. La Bible dit, et c'est une scène terrible, parce que vous êtes, on dirait qu'on est dans l'espace. Ce trône et tous ces gens devant ce trône, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de ciel. Ils sont partis. C'est juste Christ et ces gens-là. Alors, Jésus-Christ va ouvrir des livres. Autrement dit, sont consignés dans ces livres tout ce qu'ont fait ces gens-là. Tous leurs actes, tous leurs péchés, tous leurs crimes, toute leur négligence, tout leur orgueil, toutes leurs attitudes mauvaises, tout ce qu'ils ont fait est décrit dans ces livres. Ce qui fait que quand quelqu'un qui n'a pas reçu Christ dans son cœur, qui est condamné, arrive devant le grand trône blanc, le Seigneur va pouvoir lui dire exactement ce qu'il a fait, exactement quels étaient ses péchés, et va le juger en conséquence. Non seulement le Seigneur va pouvoir lui dire ce qu'il a fait de mauvais, mais le Seigneur va pouvoir lui dire toute la lumière qu'il a reçue. Par exemple, il y a des gens de Sodome, Vous connaissez Sodome, qui seront là. Sodome, Dieu l'a détruit avec un feu. Et donc, ces gens étaient des gens dans une grosse immoralité. Et c'était quand même quelque chose de terrible. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient jugés sévèrement. Et ils le seront jugés. Mais, à côté d'eux, il y a des gens qui venaient d'une petite ville à côté de la mer de Galilée qui s'appelait Capernaum. Et Capernaum, Jésus a passé du temps dans ce village, il a enseigné dans ce village, il a fait des miracles, il vivait chez Pierre. Et puis il était souvent à Capernaum. Et là, il a fait des miracles, il a fait des discours, les gens le connaissaient bien. Jésus dit, les gens de Capernaum qui ne croient pas en lui seront jugés plus sévèrement que les gens de Sodome qui vivaient dans une grosse immoralité parce qu'ils ont eu plus de lumière qu'ils ont rejeté que les gens de Sodome. Donc, ce n'est pas uniquement le mal qu'on a fait. C'est la lumière qu'on a rejetée. Ça sera un facteur du jugement. Et il y a un autre livre qui est le livre de vie. Et le livre de vie est consigné tous les noms de gens qui sont sauvés. Tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur. Dieu va ouvrir le livre pour leur montrer que leur nom n'y est pas. Leur nom n'est pas dans le livre de vie, donc ils ne peuvent pas aller au ciel. Et les autres livres servent à montrer à quel point ils ont péché. Et donc, ils seront jugés d'après leurs œuvres et chacun aura un autre degré de jugement. Chacun souffrira d'une manière plus grande ou moins grande pour l'éternité suivant ces critères-là. Et Jésus lui-même, qui ne peut pas commettre d'erreur, jugera chacun de manière absolument parfaite. Et les gens qui seront jugés par Jésus-Christ devant ce terrible trône blanc, aucun ne contestera la vérité de ce que dira le juge. Aucun ne pourra contester la sentence. Ils sauront, ils avoueront, Jésus est juste. Je mérite ce que Jésus me donne comme sentence. Ils seront convaincus que Jésus a raison. Il n'y aura pas de contestation. Mais ce sera terrible parce que ces gens vont quitter la présence de leur juge pour aller dans les temps de feu. La Bible dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, il y a, et je termine, il y a deux moments de jugement. Il y a le tribunal de Christ qui est une évaluation de tous les chrétiens, de tous ceux qui sont en Christ, une évaluation de la manière dont on a vécu pour lui, qui débouche sur les récompenses. Et puis il y a le grand trône blanc pour tous ceux qui n'étaient pas en Christ, où Dieu prononce le jugement et les consigne à l'enfer. Alors on peut espérer vraiment, et je prie vraiment, que personne dans cette salle ne finisse devant le grand trône blanc. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite et je vous encourage le plus que je peux aujourd'hui, au nom de Dieu, de vous réconcilier avec lui. Acceptez pour vous-même ce mot quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, moi, vous, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelqu'un dit au pied de la croix, le terrain est plat. Tout le monde est logé là, à la même enseigne. Tout le monde est à pied d'égalité à la croix. À la croix, on peut trouver le pardon de nos péchés. À la croix, on trouve la vie éternelle.